je vois que la technique a fini, donc je vous propose de commencer, puisqu'on m'a demandé de faire aujourd'hui, de tenir un pari qui est quasiment impossible, c'est-à-dire résumer l'histoire de toute la science-fiction anglo-saxonne en une heure. Je vous le dis tout de suite, je n'y ai pas réussi. Hein. Alors, il y a la version qui tient, j'ai préparé une version qui tient en une heure, qui peut être suivie, si vous en avez envie, par le reste, mais je vous préviens tout de suite, dans ce cas-là, on dépassera les temps. Hein. Alors, pour commencer, je redonnerai ma définition de la science-fiction, qui est celle que j'avais donnée déjà l'année dernière, lorsque j'avais parlé de la science-fiction française. C'est que pour moi, dans science-fiction, il y a le mot « science ». Donc pour moi, comme la science moderne ne commence qu'à la fin du XVIIIe siècle, le premier livre que je considère comme étant de science-fiction, c'est celui-ci, que vous connaissez tous, c'est le Frankenstein de Mary Shelley, parce que là, on utilise l'électricité, ce qui évidemment au début des années 1800, est le dernier cri des nouvelles technologies. Hein. Et donc, il paraît, bien sûr, comme vous le savez, en Grande-Bretagne, qui est le pays d'origine avec la France de la science-fiction. Alors, avant, comme on va se concentrer sur la science-fiction anglo-saxonne, bon, les débuts, de toute façon, sont anglais, mis à part Mary Shelley. Il faut ensuite mentionner quand même Sir Henry Rider Haggard, hein, qui nous a donné toutes les aventures d'Alan Quatermain, l'aventurier africain qui découvrira les mines du roi Salomon. Donc, les mines du roi Salomon, là, on est aux marges de la science-fiction, puisque ce sont des mondes perdus, des civilisations inconnues, avec des gens qui ont des pouvoirs mystérieux, etc. Mais on peut considérer que tous ces mondes perdus font partie de la science-fiction. Un autre auteur aussi d'avant, Herbert George Wells, qui est très connu d'abord pour Les Derniers Jours de Pompéi, c'est Bulwer Lytton, hein, qui, avec son roman de SF La race à venir, The Coming Race, est un pur roman de science-fiction. Hein, race, là aussi, une race, une civilisation inconnue qui nous est bien supérieure et qui utilise le vril, qui est une forme d'énergie bien plus puissante que toutes celles que nous connaissons. Alors, maintenant, pour en venir à celui qu'on peut véritablement appeler le père de la science-fiction moderne, hein, c'est Herbert George Wells, qui a 1866-1946, sans doute l'un des écrivains britanniques les plus célèbres qui soient. Et on peut dire que c'est l'homme qui a inventé le genre, hein, parce qu'avec La machine à explorer le temps, L'île du docteur Moreau, L'homme invisible et La guerre des mondes, puis, et quand le dormeur s'éveillera et les premiers hommes dans la lune, en une demi-douzaine d'années, il a traité tous les thèmes. Donc ça, c'est la première édition, je crois, de The War, de la guerre des mondes. On peut lire tout ça, toutes ses œuvres. Et donc c'est lui qui a posé toutes les bases, hein, tous les thèmes de base. Le voyage temporel, le voyage dans l'espace, la guerre spatiale, les voyages dans le futur en dormant, etc. Donc, on a tout comme ça et les différents contacts avec des races extraterrestres. À partir de là, bon, la science-fiction moderne est vraiment, pour moi, née. Alors, ensuite, bien entendu, et à côté de Wells, il y en aura d'autres. Il y a naturellement Sir Arthur Conan Doyle, hein, qui fait paraître un roman qui sera promis à une grande célébrité, c'est Le Monde perdu, où apparaît pour la première fois le professeur Challenger. Et là, naturellement, et ensuite le professeur Challenger connaîtra tout un tas d'autres aventures plutôt de science-fiction, hein, avec La Terre qui crie, etc. Donc, on est là aussi en pleine science-fiction. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, il faut bien reconnaître que jusqu'à 1912, il se passe pas grand-chose. Wells, naturellement, est beaucoup lu. Jules Verne est traduit et connaît un immense succès. D'ailleurs, il inspirera beaucoup de copieurs. Il y aura, dont le plus célèbre est Louis Sénarins. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'auteurs originaux américains. Et en général, ils se contentent de sévir dans la littérature jeunesse. Et puis, en 1912, va arriver un auteur qui va marquer de manière indélébile la science-fiction mondiale, on peut le dire. C'est, bien entendu, Edgar Rice Burroughs. Hein. Edgar Rice Burroughs, avec la parution dans All Story de la Princesse de Mars, c'est les aventures de John Carter sur la planète Mars. On peut dire que là, le grand planète opéra et le space opéra vient véritablement de naître. Hein. Là, on rentre dans l'image la plus classique de la science-fiction avec des histoires, des grands combats débridés, des héros, etc. Hein, on est sur Barsoom. Bon, et ça va durer, il va décliner ça sur combien de volumes à peu près une dizaine de romans hein, au total. C'est toujours très bien. Et Edgar Rice Burroughs est incontournable puisque, bien entendu, on le connaît aussi. L'année 1912, c'est une année fastueuse, hein, puisque c'est en 1912 aussi, en octobre, qu'il publie dans All Story, qui était l'un des grands magazines de l'époque, le premier roman Tarzan of the Apes, hein, donc, qui introduit son héros le plus célèbre. Et dans les aventures de Tarzan, 23 romans au total, il y en a un peu moins de la moitié, disons, qui sont véritablement, qui reprennent des thèmes de science-fiction. Hein. Alors je vous montre par exemple Tarzan et les joyaux d'Opar, hein, civilisation disparue au cœur de l'Afrique, c'est les derniers descendants des Atlantes. Tarzan et les hommes fourmis, des hommes miniatures. Tarzan dans la préhistoire, hein, une vallée dans laquelle survivent des dinosaures en Afrique. Donc là aussi, on est vraiment au cœur de la science-fiction. Et Edgar Rice Burroughs ne s'arrêtera pas là. En 1914, il entamera un troisième cycle qui est lui aussi fort célèbre. C'est celui des aventures de David Innes dans Pellucidar, le grand royaume au cœur de la Terre, c'est-à-dire que la Terre est creuse. Nous vivons sur la face externe de la coquille. Et Pellucidar, c'est à l'intérieur. On y rentre par les ouvertures du pôle Nord. Edgar Poe l'avait déjà fait avant. Mais on peut dire qu'Edgar Rice Burroughs est vraiment l'homme qui va développer ce cycle, six romans au total, et dans le dernier, en 1930, Tarzan lui-même volera au secours de David Innes dans Pellucidar. Ensuite, pendant qu'il y a la guerre en Europe, hein, il ne se passe pas grand-chose, mais les États-Unis, eux, continuent de publier, hein, de la science-fiction, et il y a un nouvel auteur qui apparaît, qui est Abraham Merritt. Ça sera l'un des très grands auteurs qui publie The Moon Pool, traduit en français sous le titre Le Gouffre de la Lune. Et là aussi, c'est un être super intelligent qui dirige une civilisation antédiluvienne au fond de caverne. Il publiera ensuite... Voilà, il publiera ensuite toujours, vous voyez, dans Argosy, All Story, le monstre de métal, qui là aussi est un grand classique, avec des êtres métalliques qui se nourrissent de l'énergie solaire. Merritt sera l'un des auteurs très très influents donc, dans la première partie du 20e siècle aux États-Unis. Il y a deux autres auteurs qui seront très célèbres aux États-Unis, et qui sont vraiment des pionniers de la science-fiction et qui ont sombré dans un oubli qui me semble tout à fait injustifié, surtout en France, et qui commencent après la Première Guerre mondiale, donc qui commencent vers 1919-1920. Alors le premier, c'est Ray Cummings, qui a publié The Girl in the Golden Atom, hein, le thème classique du voyage dans un atome d'une bague. Et chaque atome représente un système solaire. C'était une idée de la physique de l'époque. Et Ray Cummings, c'est l'un des premiers à l'exploiter. Il exploitera ensuite aussi les voyages dans le temps, etc. C'est de la bonne science-fiction de l'époque. Il y a un second auteur de cette période qui lui aussi est un peu oublié aujourd'hui. Pourtant, il a été très prolifique et très influent parce qu'il a exercé pendant plus d'un demi-siècle. C'est Murray Leinster. Qui a fait ses débuts en 1920 avec The Mad Planet, hein, qui était une nouvelle. Ensuite, il va la transformer en 1953, parce qu'elle sera rééditée plusieurs fois entre-temps. En 1953, il la transforme en un roman face au succès. qui s'appelle Forgotten Planet, qui sera même publié en français en 1960. Donc vous voyez quand même un auteur avec des durées de vie pour son œuvre qui sont très longues. Et Murray Leinster, ben, il sera très très prolifique. Je crois qu'il a dû écrire une centaine de romans à peu près. C'est colossal. Bon. Alors maintenant, si on revient un petit peu en arrière, je vais quand même vous parler d'un événement qui est très important, et c'est l'événement, ce qui va fonder véritablement la science-fiction, c'est avec l'arrivée aux États-Unis de Hugo Gernsback, qui était un Luxembourgeois né en 1884, et donc il émigre aux États-Unis, et là-bas, c'est lui tout seul qui va créer de toutes pièces toute la science-fiction moderne telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Hein. Donc, il arrive en 1904 à New York, il a 20 ans, il monte une usine, c'est un passionné de science, et en particulier de tout ce qui est électricité et radio. Donc, il monte d'une part une petite fabrique de batteries électriques pour auto, et en avril 1908, il lance un magazine qui s'appelle Modern Electrics. Oui, je suis désolé, la photo là est un peu floue. Donc ça, c'est le premier volume, le numéro 1. Et donc, en même temps, il s'occupe de radio et de télévision. Il est d'ailleurs considéré, à tort, je le précise, comme l'inventeur du mot. C'est Robida, en fait, le grand auteur et dessinateur français qui a inventé le mot télévision. Mais c'est Gernsback qui l'a rendu populaire et qui l'a fait passer dans l'usage courant. Et donc, Gernsback, en 1911, va écrire et publier dans sa revue un roman qui s'appelle Ralph 124C41+, dans lequel il développe un certain nombre d'inventions qui pourraient être développées à partir des connaissances scientifiques de l'époque. Et par exemple, en 2660, quand se déroule ce roman, on utilise la télévision, le téléphone télévision, etc. Donc c'est très en avance sur son temps. En même temps, il faut reconnaître que s'il a des bonnes idées, Gernsback n'est pas un bon écrivain. Sauf si on est vraiment un fan absolu de très vieille science-fiction, ce roman-là, malheureusement, a beaucoup vieilli. Et autant je peux recommander Rice Burroughs, Leinster ou d'autres, on peut honnêtement se passer de Gernsback. Alors, en 1913, il va fonder encore une nouvelle revue qui s'appelle Electrical Experimentator, et dans laquelle, outre les articles de fond techniques comme il le faisait dans sa revue précédente, il va publier là, pour la première fois, des articles de fiction, ce qu'il appellera à l'époque la scientific fiction, avec des illustrations pour bien attirer le client, hein. Vous voyez, The Electrical Experimenter, ça c'est pendant la guerre, un bon moyen de se débarrasser des Allemands dans les tranchées. Et en 1919, il ajoutera en sous-titre Science and Invention, donc science et invention, ce qui est encore plus explicite quant au double but qu'il poursuivait à l'époque, qui était donc à la fois d'instruire le public, mais en même temps de rendre la science amusante, d'ouvrir l'imagination afin qu'on crée de nouvelles inventions. Donc, vous voyez, voilà quand il a rajouté Science and Invention, et là, par exemple, c'est une sorte de prototype d'hélicoptère, alors que, bien entendu, Sikorsky ne l'a pas encore inventé. Hein. À partir de 1920, il va développer encore de la publication de toutes ces nouvelles à tendance scientifique et imaginative dans Science and Invention, un autre de ses magazines, dans lequel il va publier Ray Cummings, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, il va développer de plus en plus cela. Hein. Vous voyez, il s'intéressait aussi, par exemple, à la métapsychique. Donc, il suivait en cela Thomas Edison, qui essayait d'inventer un téléphone pour parler avec les morts, etc. Donc, il était vraiment en prise directe avec les côtés, je dirais même, à la fois les plus en pointe et peut-être parfois les plus farfelus de la recherche de l'époque. Et c'est ainsi, alors ça, là, on est en 1926, hein, avec ce magazine. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive au premier grand tournant de l'histoire de la science-fiction aux États-Unis, parce que c'est là où il va créer Amazing Stories, le premier magazine purement de science-fiction. Jusque-là, il n'existait aucun magazine spécialisé, à l'exception naturellement de Weird Tales. Hein. Ça, c'est la couverture du premier magazine. Weird Tales a commencé en mars 1923. Mais Weird Tales était plutôt spécialisé dans le fantastique. Alors certes, ils ont publié, par exemple, dans ce numéro-là, Dagon de Lovecraft. On note d'ailleurs qu'il n'y a pas le nom de Lovecraft dessus, mais ils préféraient plutôt ce qui était ce qu'on appellera plus tard l'héroïque fantasy, les aventures à tendance fantastique, et puis aussi ce qui était un peu macabre, l'horreur, etc. Donc, Gernsback, lui, par contre, il s'est aperçu à travers tout ce qu'il organisait dans ses magazines sur l'électricité et la radio, il organisait des concours, etc. Et il s'était aperçu que le public, quand il répondait à ses questionnaires et tout, attendait en fait de la fiction scientifique, ils en voulaient encore plus. Donc, dans le premier numéro d'Amazing Stories, voilà, dont voici la couverture. Il va dire qu'il va publier ce qu'il appelle maintenant de la science-fiction. Il a condensé les deux. Donc la science-fiction, c'est un mélange d'histoire romantique, de faits scientifiques et de vision prophétique du futur. Alors, comme vous le voyez, dans ce premier numéro, il publie aussi, c'est très éclectique, hein, il publie Wells, Verne et Poe. Donc on a trois pays de représentés. Et trois grands auteurs. Et à partir de là, Gernsback va toujours privilégier l'aventure sur les faits scientifiques. Hein? Et c'est une politique délibérée de sa part parce que, quand même, il vide ses magazines, donc ce qu'il veut, c'est d'abord attirer des lecteurs, hein, c'est normal. Donc, ça, c'est une politique délibérée qui va être soutenue en plus par des couvertures que personnellement je trouve fort belles. Mais qui sont un peu de tape à l'œil et qui sont du grand illustrateur Frank Herpol. Hein, donc, ça va toujours être des tas de choses comme ça. Il y a beaucoup de. C'est très coloré, il y a toujours de l'action et tout. Et à partir de là, il va attirer un nouveau lectorat qui est beaucoup plus jeune. Et pour vous donner une idée, en octobre 27, le numéro dont vous voyez la couverture, il tire à 150 000 exemplaires et il vend en moyenne 125 000. Ce sont des chiffres qui nous laissent rêveurs aujourd'hui. Il faut dire que dans Amazing Stories, il aura un certain nombre de collaborateurs réguliers, comme collaborateurs réguliers, hein, de très grands auteurs. Alors bon, là encore, certains sont un peu oubliés aujourd'hui, sauf des amateurs. Mais des gens comme Hyatt Verrill, comme Doc Smith avec ses Skylark, qui sont vraiment le prototype du space opéra le plus débridé, où on voyage à travers la galaxie, où il y a des flottes spatiales de milliers de vaisseaux qui se battent, etc. La science est complètement oubliée. On n'est plus que dans la fiction et c'est quand même très bien. Il y aura donc Ray Cummings, naturellement, qui est l'un des auteurs incontournables de l'époque. Le docteur David Keller, qui est aussi l'un des grands auteurs de l'époque et qui est très oublié aujourd'hui, totalement inconnu en France, parce qu'il n'a eu qu'un seul livre de traduit en France, et c'était avant la guerre, donc c'est un peu oublié. Et puis Jack Williamson, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et même Lovecraft sera publié dans Amazing Stories. Il publiera Out of Space, la couleur tombée du ciel, dans ce numéro. Vous voyez, encore une de ces couvertures sobres et discrètes qui évidemment, quand elles étaient dans les kiosques, beaucoup de gens se sentaient obligés de prendre le magazine pour le voir. Donc, Gernsback, face au succès de Amazing Stories, en bon éditeur, il va décliner ça sous toutes les formes possibles. Hein. Donc, il y aura un annual dans lequel celui-ci, par exemple, il fait très fort puisqu'il publie un roman inédit de la série de Mars d'Edgar Rice Burroughs, hein, qui en plus a un thème très nouveau pour l'époque, puisque là, dans Mastermind of Mars, on est dans les greffes d'organes et en particulier les greffes de cerveau. Hein. À l'époque, c'est pas, même aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas très courant. Il publie aussi un trimestriel, un quarterly, donc dans lequel on reprend trois numéros passés et puis avec une nouvelle couverture pour couvrir le tout. Et donc, ce seront à travers toutes ces diverses publications que la science-fiction va se transformer complètement aux États-Unis. C'est ce que Mike Ashley, qui est sans doute le meilleur expert de cette époque de la science-fiction. Pour Mike Ashley, c'est avec le numéro d'août 1928 d'Amazing Stories, donc celui-ci, que il y a un tournant définitif pour lui dans la science-fiction, parce que c'est dans ce numéro-là que Gernsback abandonne la scientific fiction, donc au profit de la science-fiction, là, complètement débridé. Il avait déjà commencé un peu avant, mais c'est dans ce numéro-ci que commence donc le premier roman de Doc Smith, dont je vous ai parlé tout à l'heure, The Skylark of Space, qui est de la science-fiction complètement débridée à travers la galaxie. C'est vraiment le space opéra sans complexe. C'est dans ce numéro aussi, vous voyez la couverture, qu'est publié le roman de Philip Francis Nolan, Armageddon 2419, dont le héros est Buck Rogers. Et Buck Rogers, ça deviendra l'un des très très grands héros aux États-Unis, un succès colossal, hein, puisqu'il deviendra une bande dessinée à très grand succès, publiée dans tous les journaux américains. C'est sans cesse réédité, ça, même de nos jours, c'est continu. Ça sera aussi un serial avec Larry Buster Crabbe à la fin des années 30, qui connaîtra un succès immense. Donc, Buck Rogers, c'est vraiment l'un des très grands succès. Ça, c'est ce qui fait passer la science-fiction vraiment dans la vie de tous les jours pour les lecteurs qui n'ont jamais ouvert un pulp de leur vie. L'autre très grande contribution de Gernsback, et qu'il faut souligner, parce que c'est très important pour la construction de la science-fiction aux États-Unis, c'est son action pour organiser les lecteurs. Hein. Gernsback, c'est un luxembourgeois, donc il a un esprit un petit peu germanique, il faut que tout soit bien ordonné, que ça tourne, etc. Il aime bien l'organisation, donc les fans, les lecteurs de science-fiction, eux aussi, il faut qu'ils soient organisés. Alors, dès janvier 28, il commence par mettre dans les courriers des lecteurs, il met l'adresse. À la fin de chaque lettre, on a l'adresse du lecteur, ce qui permet aux autres lecteurs qui habitent dans le coin de pouvoir contacter la personne qui a écrit, etc. Et c'est à partir de là qu'il va apparaître, grâce à Gernsback, toute une génération de très jeunes gens à l'époque, mais qui vont former la génération suivante. Alors, vous allez reconnaître certains noms, hein, c'est Forrest J. Ackerman, le plus grand fan du monde, Raymond Palmer, qui deviendra éditeur et écrivain, Bertram Chandler, un grand écrivain, Jack Williamson, ça, ce sont des gens qui sont apparus grâce à Gernsback. Et donc, à partir de là, va être fondé le premier club de science-fiction qui s'appelle le Science Correspondence Club en mars ou avril 29. Hein. Et puis, à partir de là, le fandom commence à s'organiser. Il y aura quand même, je crois, 36 chapitres. Ce qui est pas mal, hein, pour les 50 États des États-Unis continentaux de l'époque. Alors, cependant, en 29, donc tout ça commence à être bien lancé, en 29, coup de tonnerre dans le milieu de débutants de la science-fiction, Gernsback est poursuivi en justice, sa compagnie est mise en faillite, donc catastrophe totale, mais ce qui avait coulé Gernsback, en fait, c'était qu'il avait une station de radio et de télévision, hein, où il commençait à essayer de faire de la télévision. Donc c'est ça qui l'avait complètement coulé. Et là, grâce à la vente de ces stations, il va réussir à sauver ses publications dans Amazing Stories. Mais Gernsback sera viré, va quitter naturellement la direction d'Amazing. Et en partie grâce à cela, hein, Gernsback, c'est un monsieur qui a bien les pieds sur terre et qui sait rebondir dans toutes les conditions. Donc, 3 mois après son éjection d'Amazing, il sort le premier numéro d'un nouveau magazine qui s'appelle Science Wonder Stories. Et donc, on est en juin 29. Donc, vous voyez, toujours le même principe avec une superbe couverture, etc. Et dans la foulée, en juillet, donc un mois après, il sort un second pulp qui s'appelle Air Wonder Stories. Hein? Et à partir de là, il va créer, et c'est là que Gernsback va créer l'expression science-fiction en remplacement de scientifiction. Hein? Il commence dès avril 29, ça y est, scientifiction, c'est oublié, maintenant c'est science-fiction. Et à partir de là, c'est le terme qui sera retenu. Alors ensuite, j'avance un petit peu plus vite. Bon, Gernsback continue à publier tout ça. Il essaye de lancer aussi un certain nombre d'autres revues. Finalement, il s'aperçoit que le mot science, ça fait quand même un peu peur à une partie de son lectorat. Donc en 1932, on abandonne le mot science dans le titre. Ça devient uniquement Wonder Stories. Et là, on est à nouveau dans de la pure science-fiction. Et ce qui est très important... Il utilise des auteurs qui vont développer ce qui, à l'époque, sont considérés comme des idées nouvelles. Hein, dès 1932, dans Wonder Stories, on aborde des thèmes comme le sexe. Le sexe, c'est la manière de 1932, hein, quand même. Mais c'est une première évolution. Le rôle des femmes aussi. Le socialisme aux États-Unis, vous imaginez comme sujet tabou, le socialisme. La religion, autre sujet tabou, etc. Et ça, grâce à des gens comme Clifford Decimac, par exemple, comme le futur John Wyndham, qui écrit encore sous son nom réel de John Benon Harris, etc. Et malgré les premiers effets de la Grande Dépression, Wonder continuera de sortir. Hein, mais à partir de là, il va commencer à décliner un petit peu parce qu'il fera face à la concurrence d'un autre magazine qui, à ce moment-là, a pris son essor. Hein, ça, il a commencé à apparaître en janvier 1930, c'est Astounding Stories. Bon, c'est le magazine qui dominera la science-fiction américaine, j'avance un petit peu, hein, pendant quelques dizaines d'années, sous la houlette de Campbell, je vais vous en parler après. Mais donc, 1930, Astounding commence, et d'ores et déjà, il commence à faire... à faire concurrence à Gernsback. Bon, alors c'est en 1934 que Gernsback va lancer la Science Fiction League, donc suite des clubs, et c'est ce qui va marquer de manière indélébile tous ses membres. Hein. On va trouver des gens comme Frédéric Pohl, comme Donald Wolheim. Bon, on retrouve les anciens comme Forrest Ackerman ou Raymond Palmer, Otto Binder. Donc, pour ceux qui sont un peu familiers de la science-fiction américaine, ce sont tous les grands noms des années 40, 50. Et c'est grâce à cela que le fandom américain va prendre sa forme définitive, va être organisé, va publier des magazines qu'on appelle fanzines, va organiser les premières conventions mondiales de science-fiction, va commencer à monter des petites maisons faniques, et donc à partir de là, tout est structuré. Malheureusement, en même temps, pour en terminer avec Gernsback, il faut dire que malgré tout, malheureusement pour lui, ses ventes déclinent, contenu et qualité sont plus que c'est parce qu'il a moins d'argent. Il y a une concurrence féroce aussi des autres parce que grâce à Gernsback, les autres éditeurs se sont aperçus qu'il y avait un bon créneau et de l'argent à gagner. Et évidemment, le gâteau reste le même, mais les parts sont de plus en plus petites parce qu'il y a de plus en plus de convives. Et finalement, en 36, le 21 février 1936, Gernsback clôt sa grande période science-fiction en vendant Wonder Stories. À partir de là, il ne reviendra plus jamais professionnellement à la science-fiction. Il publiera d'autres magazines de sexologie, entre autres. Il fera juste une petite tentative en 1953 avec un magazine de SF qui ne marchera pas. Donc, exit Gernsback. Malgré tout, il ne sera jamais oublié. Hein. Et la reconnaissance de tous les auteurs, de tous ses lecteurs, de tous les fans se traduira par le fait que le plus grand prix décerné en matière de science-fiction, ça s'appelle le prix Hugo, et que le prix Hugo sera en son honneur, sera lui-même remis à Hugo Gernsback en 1960, ce qui est pour l'ensemble de son œuvre, oui, si ça veut, voilà. Et donc, voilà le Hugo de Hugo Gernsback en 1960. Et alors, pour vous donner une petite idée de ce qu'est l'héritage de Gernsback la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'en 15-16 ans, à partir de, alors qu'il n'y avait rien, on trouve d'une part un certain nombre de pulps, hein, ces grands magazines. Alors, il y a d'une part tous les pulps qui sont spécialisés dans les aventures d'un seul héros. Alors, j'en citerai un quand même parce que je l'aime beaucoup et que là, c'est de la science-fiction, c'est Doc Savage. Hein, je pense que tout le monde connaît. C'est sous le nom de Kenneth Robson, mais c'est principalement Lester Dent. Donc, Doc Savage, c'est une sorte de Superman. Il n'a pas des super pouvoirs, mais il a une super force, etc. Et tout ça est grâce à un développement scientifique et c'est un super savant. Mais d'autre part, voilà ce que les amateurs de science-fiction avaient la chance de pouvoir trouver. Hein, à la devanture de leur kiosque, donc entre 1937, 38, 39, 40. Donc vous voyez beaucoup de couvertures magnifiques. Ça c'est tout l'âge d'or. Donc maintenant, si on revient un petit peu en arrière, je vais vous parler de l'autre homme qui a façonné de toutes pièces la science-fiction américaine à la suite de Gernsback. C'est John W. Campbell. Qui a pris la direction d'Astounding en septembre 1937. Hein, et c'est une revue qui, comme je vous l'avais indiqué, a été fondée en janvier 1930, et elle ne disparaîtra qu'en 1975. Et Campbell, lui-même, en gardera la direction pendant 34 ans, jusqu'à sa mort. Donc, vraiment extraordinaire. Alors, j'étais en train d'essayer de trouver, mais là, je va prendre la revue en charge. Il va imposer un changement de titre. Vous voyez que ça devient Astounding Science Fiction et non plus Stories. Et à partir de là, donc Campbell va imposer véritablement sa marque d'une main de fer, hein, on peut le dire. Alors Campbell, c'était un physicien de formation en plus. C'est un écrivain. Hein, quelqu'un qui a été très connu, sous le pseudonyme de Don Stewart, il avait publié Who Goes There? Ah, pourquoi j'ai... Voilà, dans ce numéro. Et c'est celui que Jacques Sadoul considère comme le point de départ de la science-fiction classique des années 40. Hein. Vous connaissez tous l'histoire, sur une base antarctique, on fait une découverte d'une créature étrange dans un bloc de glace, on réussit à la décongeler et ça se transforme en une machine à tuer. Et c'est grâce à leur esprit d'analyse et à leur intelligence que les savants réussissent à s'en débarrasser. Tout le monde connaît ça, puisque c'est le... décidément... Voilà, c'est le sujet de The Thing, hein, qui... le film La chose d'un autre monde. Ce qui fera la force de Campbell en tant que rédacteur en chef du magazine, c'est qu'il sera d'une exigence redoutable quant au style et à la logique de l'histoire. Et alors, il était connu pour faire des courriers gigantesques, extrêmement longs, plein de remarques, de suggestions, d'explications, de critiques, etc. Et y compris si c'était des auteurs confirmés, il n'y avait aucun problème. Et l'autre grande passion par la science de Campbell, c'était d'essayer de montrer qu'à travers la science-fiction, on pouvait faire de la prospective, et donc il voulait faire des sortes de prévisions de ce qu'est serait le futur. Bon, ça peut-être un peu moins bien marché quand même. Mais c'est quand même grâce à cette école, à cette école Campbell, que vont jaillir tous les grands écrivains de ce qui formera, de ce qu'on appellera l'âge d'or de la science-fiction américaine, c'est-à-dire les années 40 et le début des années 50. C'est les années pendant lesquelles Astounding règne sans partage. Hein, parce que d'un point de vue qualité, il y a beaucoup de concurrence hein, quand même. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, même après Pearl Harbor, les pulps se continuent de passer parce que ça sert à soutenir le moral des populations. Hein. Les super-héros luttent contre les nazis et les japonais. Et ça sera qu'à partir de 1944 qu'il y aura vraiment le manque de papier. C'est là les pulps commenceront à disparaître. Il faut dire qu'en plus, en 1944, là, il y a un certain nombre d'auteurs qui commencent à être aussi sous les drapeaux. Donc, mais dans Astounding, pendant cette période, vont sortir les plus grands auteurs classiques. Si on prend ce numéro d'Astounding, juillet 1939, c'est un numéro tout à fait exceptionnel parce que à son sommaire figure, comme vous le voyez, la première publication de Van Vogt et la première publication d'Isaac Asimov, la première parution d'Isaac Asimov. Alors Van Vogt, hein, 1912-2000, c'est un auteur canadien, grand lecteur de science-fiction, qui a été enthousiasmé par par la lecture de la nouvelle de Campbell ou Gosser, et qui pense que du coup il peut écrire de la science-fiction. Campbell répond à à ce jeune fan, et c'est comme ça que Van Vogt publie Black Destroyer, qui est la première de plusieurs nouvelles, qui mise bout à bout par lui. Un plan d'ensemble donneront ce que je tiens personnellement pour l'une des plus belles œuvres de Van Vogt, c'est celle-ci, c'est la faune de l'espace. Hein? Ensuite, voilà, il publiera dans ce numéro d'Astounding le début de Slan. Ensuite, en 1945, ça on est en 1940, en 45, donc dans ce numéro d'Astounding. Il commence le début de The World of Null A, c'est-à-dire le roman Le Monde des Noix qui est basé sur la sémantique générale et qui sera traduit en français plus tard par Boris Vian. Alors, dans le même numéro que je vous ai montré tout à l'heure d'Astounding de juillet 1939, apparaissait aussi une autre des grandes gloires de la science-fiction, comme je vous le disais, c'est Isaac Asimov, hein, qui a fait partie du fandom américain avant de commencer à écrire professionnellement. Donc, il publiera Reason, qui fait partie ensuite de I, Robot, dans Astounding en avril 1941, et ce sera le début de sa série de nouvelles qui lui permettront de développer ces fameuses trois lois de la robotique hein, que tout le monde connaît. Il développera donc ses idées ensuite dans des romans comme celui-ci. Comme celui-ci. Hein, I, Robot, qui a été traduit en français sous les robots. Et puis ensuite, on verra aussi ça dans ses romans policiers de SF. Hein. Par exemple, dans le Galaxy. Voilà, dans ce Galaxy d'octobre 53, c'est les cavernes d'acier, The Cave of Steel. Ensuite. Et dans celui-ci, dans Astounding, c'est The Naked Sun, c'est-à-dire Face au feu du soleil, hein, qui sont des grands romans. Ensuite, naturellement, il atteindra la gloire absolue avec les débuts de Fondation, qui commencera dans Astounding dès 1942. Voilà, c'est le début de Fondation. Le troisième très grand écrivain des débuts de Campbell, ben, ce sera naturellement Robert Heinlein, hein, qui commencera avec Requiem, qui paraîtra donc dans Astounding de janvier, dans celui-ci. Et puis ensuite, il continuera ses débuts de l'histoire, de ce qui deviendra l'histoire du futur avec Methuselah's Children. Sortira dans le numéro d'un standing de juillet 1941. Bien entendu, Heinlein continuera ensuite d'être un écrivain très prolifique. Hein. Il ne faut pas oublier tous ses romans pour jeunesse qu'on appelle les juveniles, comme donc par exemple là, il y a Rocket Ship Galileo, Starman Jones, hein, qui sont formidables. Dans les autres grands auteurs donc, de ces années 40, il y a bien entendu Jack Williamson, qui continue d'écrire déjà depuis l'avant-guerre et qui continue, et dont Darker Than You Think. Alors, est-ce que maintenant c'est revenu? Non, c'est pas revenu malheureusement. Donc, Darker Than You Think, qui devient plus noir que, qui sera plus noir que vous ne pensez, ça sort dans une autre grande revue de l'époque qui s'appelle Unknown. Il y a Fritz Leiber, naturellement, qui souvent est à la limite de la fantasy, mais qui a écrit aussi un grand roman qui est publié à partir de 1943, c'est Gather Darkness dans Astounding, qui sera traduit en français sous le titre À l'aube des ténèbres, qui est un des grands classiques de la SF. Et puis naturellement, c'est l'époque à laquelle il commence à écrire les premières nouvelles de ce qui composera ensuite le cycle des épées, hein, les aventures du souricier gris et de Fafferd dans l'univers de No One, qui sera traduit en français sous le cycle des épées. Avec, j'ai pas résisté là quand même, simplement au plaisir de vous montrer une très belle illustration de Drouillet dans le CLA qui était consacré aux aventures du cycle des épées. Il y aura aussi Theodore Sturgeon, qui sera l'une des grandes découvertes de Campbell. Hein. Alors Theodore Sturgeon, il commencera avec une nouvelle qui s'appelle Etherweather. C'est avec la télécouleur, etc. Dans un Astounding qui est de septembre 39, celui-ci. Et puis naturellement, ensuite, Sturgeon, il écrira surtout beaucoup de nouvelles qui seront reprises dans beaucoup d'anthologies. Une autre découverte de Campbell, ce sera aussi Clifford Decimac, dont je parle parce qu'il est très méconnu en France et à mon avis très injustement, alors que personnellement, j'ai tendance à le considérer comme l'un des plus grands écrivains de science-fiction américain. Alors, Simak, il écrira les ingénieurs du cosmos, qui sortira dans l'Astounding de février 1939. Et puis ensuite, il publiera dans l'Astounding en mai 1944, City, qui est le premier conte de la série Demain les chiens. Qui est l'un des plus beaux livres qui soit, hein, où les humains se sont transformés, ils ont émigré sur Jupiter, ils ont laissé la Terre aux chiens qui ont été rendus intelligents, et les chiens qui se racontent les histoires sur les hommes le soir à la veillée au coin du feu émigreront eux-mêmes sur une autre Terre parallèle pour laisser la place aux insectes intelligents qui les remplaceront. C'est très très beau, Simak. Alors, au début des années 50, tous ces pulps que vous voyez là, qui étaient des pulps donc grand format, vont disparaître et vont remplacer par les petits formats, ce qu'on appelle aux États-Unis les digests, qui sont en fait les formats que nous connaissons aujourd'hui. Alors, en 49, commencera à apparaître. Alors, j'ai l'impression que ça y est. Il y avait quelques numéros en double et que là, c'est bon maintenant. Bon, donc, oui. Voilà, donc, en 1949, commence à paraître The Magazine of Fantasy, hein, donc c'est le premier numéro, qui rajoutera dès le numéro 2 The Magazine of Fantasy and Science Fiction, et F&SF, qui mettra quelque temps à se hisser au niveau des grands, mais dès 54, ce sera fait. Hein, en publiant, là, c'est son éditeur, c'est Anthony Boucher, et ils publieront les textes de tous les grands auteurs, comme Heinlein avec le roman Star Lumox, qui donnera plus tard naissance à The Star Beast, qui en français on traduira par c'est l'enfant tombé des étoiles, si je me souviens. Comment ? C'est ça, hein, l'enfant tombé des étoiles, il me semble. Bon, c'est aussi le magazine qui publiera le premier texte important de Philippe Kadic, The Father Thing. Et FNSF publiera tous les auteurs importants, il durera jusqu'en 1974. On nous trouvera, par exemple, c'est là que sera publié, par exemple, le très célèbre La patrouille du temps de Poul Anderson, hein, dans le numéro de mai 55 que vous voyez là. L'autre grande revue au format Digest, qui marquera très profondément le paysage de l'ASF américaine, ce sera Galaxy, hein, dont le premier numéro est daté d'octobre 50. Donc voilà le premier numéro de Galaxy. Et Galaxy, ça va apporter tout à fait un ton nouveau à l'ASF, parce que là, c'est ce qu'on considérera comme le passage de l'ASF au genre, entre guillemets, adulte, hein, puisque l'ASF avait quand même l'image, traîné la réputation à travers les postes, continue de traîner quelque part, d'ailleurs, au moins en France aujourd'hui encore, la réputation d'une littérature plutôt pour les enfants et les grands-enfants. Avec Galaxy, en tout cas, on va passer à ce qu'on va appeler l'ASF vraiment adulte. Hein, et dès ce premier numéro-là, c'est très brillant. Le début d'un roman de Simak, Dans le temps des siècles, grand roman. La célébrissime nouvelle de Damon Knight, To Serve Man, qui fera la couverture du premier Galaxy français et qui donnera naissance à l'un des épisodes les plus fameux de la série Twilight Zone à la télévision américaine. Troisième saison, 2 mars 1962, magnifique, avec le livre de recettes des Calamites. Bon, et puis dans ce numéro, on trouve aussi Isaac Asimov, Richard Matheson, Frederick Brown, Fritz Leiber. Donc vous voyez, rien que du beau monde. Alors dans Galaxy, on trouvera ensuite Ray Bradbury, par exemple, qui dans ce numéro de février 51 publiera la nouvelle qui donnera naissance à Fahrenheit 451. On trouvera aussi dans Galaxy Robert Heinlein, hein, première parution de The Puppet Master, Marionnettes humaines, en 52. Autre événement d'importance dans le paysage américain, c'est l'apparition et le développement des formats des livres en format poche. Hein, c'est ce qui permettra enfin la diffusion à très bas prix de l'ASF. Jusque-là, c'était toujours des livres, ce que les Américains appellent les hardcovers, c'est-à-dire des livres de luxe, grand format, donc chers, donc peu achetés si ce n'est par les collectionneurs. Et sinon, c'était les livres publiés par les petites maisons d'édition dont je vous ai parlé tout à l'heure, des fans, hein, comme par exemple Donald Volheim qui avait fondé Arkham House. Donc, ce sont des tout petits tirages. Là aussi, pour l'époque, c'est très cher. Avec des collections comme S-Double, par exemple, qui publieront Van Vogt, hein, ou Leigh Brackett, la femme d'Hamilton, qui deviendra très célèbre pour la magnifique série d'aventures de Eric John Stark sur la planète Mars, The Sword of Rhiannon, etc. C'est absolument magnifique. Donc, avec une série comme celle-là, ou avec le grand éditeur américain Ballantine, qui lui commence à publier des anthologies comme celle-ci, une anthologie de nouvelles de Frédéric Pohl, une autre de Henry Kottner, ça va diffuser la science-fiction parce que là aussi, les anthologies de nouvelles, jusque-là, ça n'existait quasiment pas, si ce n'est, là encore, dans des éditions à tout petit tirage. Forrest Ackerman, par exemple, avait sorti deux ou trois anthologies, mais là, on parlait de quelques centaines d'exemplaires. Là, d'un seul coup, on est dans la très grande diffusion et à ce qui est pour l'époque un prix très raisonnable. Vous voyez là par exemple 35 cents. C'est le prix du livre de poche à l'époque. Donc c'est tout à fait correct. Et pendant ce temps-là, bon, je précise aussi que le fandom continue à s'organiser. Hein, les conventions ont repris en 46 et les conventions mondiales vont aussi devenir des événements très réguliers. Et le Hugo dont je vous ai parlé tout à l'heure donc sera remis pour la première fois en 1953. Donc, à travers ces bouleversements du paysage éditorial américain en matière de livres, avec ces livres de poche qui connaissent de grandes diffusions et les magazines dont je vous ai parlé, bon, pour gagner du temps, oui, parce que vous voyez, j'ai été très long. Allez, on passe aux années 70, hein. Tous les grands auteurs sont en place, ils sont en train d'écrire. passe aux années 70, qui vont être des années charnières, et pour deux raisons. D'une part, c'est la popularité grandissante de la science-fiction à travers des auteurs qui, pour certains d'entre eux, vont être reconnus par la littérature générale et lus par des gens qui ne lisaient pas de science-fiction. Et d'autre part, et c'est concomitant, c'est l'essor des cycles. Avant, on ne connaissait pas tellement ça, mais là, à partir des années, fin des années 60 et début 70, il y a des grands cycles qui vont marquer l'imaginaire collectif. Et puis d'autre part, la deuxième raison pour laquelle les années 70 sont charnières, c'est la remise en cause de la science-fiction campbellienne classique. Alors, pour commencer, donc, au début des années 70, les grands magazines sont toujours les mêmes. On a toujours Galaxy qui publie souvent des auteurs un peu controversés. Par exemple, Galaxy en 1968, en juin 68. Publiera une nouvelle de Harlan Ellison, The Beast That Shouted Love at the Heart of the World. C'est une révolution dans l'écriture de la science-fiction et dans ses thématiques. Et Harlan Ellison deviendra justement l'un des contestataires de la science-fiction classique. Alors, Galaxy continue quand même de s'appuyer sur les auteurs établis, hein, ça parle de soi, mais publiera aussi des auteurs nouveaux, comme Christopher Priest avec Le Monde Inverti, ou celui qui deviendra un des grands auteurs futurs, Gregory Benford, dont on aura l'occasion de reparler. Et Galaxy perdurera comme ça jusqu'en 1995. Et avec sa disparition, bah, évidemment, c'est une page de l'âge d'or et un pilier de la science-fiction qui disparaissent. Pendant ce temps-là, si on revient un peu en arrière, The Magazine of Fantasy and Science Fiction, dès les années 70, avait commencé à publier des romans de très grands auteurs comme Fritz Leiber, avec The Ship of Shadows, qui d'ailleurs ne sera jamais traduit en français, je ne sais pas pourquoi, alors qu'en plus il a eu le Hugo en 1970. Bon, ça fait partie des mystères de l'édition française. Ainsi que des auteurs établis, vous voyez, Niven Delaney, Philippe Joseph Farmer, Zena Anderson, Harry Harrison, Isaac Asimov, Howard Fast, Fritz Leiber. Bon. Astounding, qui a changé de nom et est devenu Analogue en 1960, donc sera marqué par la mort de Campbell en novembre 71. Donc, comme je vous le disais, 34 ans à la barre, effectivement, ça marque un magazine. Et c'est une disparition, celle de Campbell, qui arrive juste au moment où la science-fiction va connaître une très grande crise, avec le démarrage de ce qu'on va appeler en Grande-Bretagne la New Wave. Alors, ça va démarrer dans une revue anglaise qui s'appelle New Worlds. Alors, c'était une revue qui existait depuis 1946, mais sous l'influence de Moorcock, qui était pourtant un grand auteur classique, c'est Elric le nécromancien, etc., va se développer une volonté de transcender les frontières de la science-fiction traditionnelle. On va vouloir inventer des nouvelles techniques d'écriture et de narration. C'est la volonté de choquer. On est à la fin des années 60 et le monde change. Dans le swinging London des années 60, on va faire changer aussi la science-fiction. Alors Moorcock va être rejoint par Harlan Ellison dont je vous parlais. Harlan Ellison, c'est quand même un homme qui déjà aux États-Unis a commencé à faire bouger la science-fiction avec des anthologies qui ont fait beaucoup parler d'elle, Dangerous Visions. Et à partir de là, dans New Worlds, on va publier un roman de Norman Spinrad, Bug Jack Baron, Jack Baron et l'éternité en français, qui fera un certain scandale. On va publier Brian Aldiss, qui jusque-là était un auteur, lui aussi, de science-fiction assez classique. Brian Aldiss va s'engager avec Frenesi dans New World, et puis New World va publier des auteurs comme Ballard, comme Thomas Dish, comme Philip K. Dick, comme John Sladek. Donc, vous voyez, rien que du beau linge. Et c'est là où Dick va commencer à virer, puisqu'il avait véritablement sa cutie, puisque Dick, il avait quand même commencé dans les années 50 avec de la science-fiction hyper classique, style Loterie solaire, Les clans de la lune, Alphan, etc. Ensuite, il avait commencé à virer avec Le maître du haut château, sa superbe uchronie. Et puis ensuite, eh ben, il bascule complètement avec Do Androids Dream of Electric Sheep, hein, qui fournira en 68, qui fournira le scénario de Blade Runner. Donc, c'est pareil. Alors, quand même, il faut relativiser. La New Wave aura de très gros effets à l'intérieur du fandom, hein, et des amateurs de science-fiction, où là, il y aura des bagarres épiques. Mais par contre, en dehors de la science-fiction, elle aura que peu d'influence, disons, de répercussions au niveau de la littérature plus générale. En plus de ça, enfin, en tout cas, c'est mon avis, c'est que c'est une littérature qui a vieilli assez vite et que personnellement, je trouve que beaucoup des textes de l'époque sont très datés aujourd'hui. Alors, un petit mot aussi. C'est pas une réaction véritablement à la fin de la New Wave, mais aux États-Unis vont paraître à la fin des années 70 deux magazines. Alors, le premier c'est Omni, un excellent magazine qui mélange, alors quelque part dans l'esprit, c'est très campbellien puisque ça mélange à la fois des articles de pure science et surtout dans les recherches les plus avancées à l'époque. Hein. Et en même temps, de la science-fiction, et toujours avec des illustrations absolument magnifiques. Malheureusement, Omni ne durera que quelques années, 7 ou 8 à peu près. Et l'autre qui dure encore aujourd'hui capitalisera sur un nom que vous connaissez, c'est Isaac Asimov. Et donc, c'est un magazine qui continue de paraître aujourd'hui encore. Alors là, on est donc à la fin des années 80. Hein, et ben on rentre dans les années contemporaines et je vois qu'il est midi. Donc c'était le temps qui m'était imparti. Alors je ne sais pas si vous voulez continuer parce que si je ne vous ai pas lassé, parce que j'avais prévu que je serais étant bavard un peu court avec 1 heure. Donc si vous voulez, je peux continuer à vous parler de la science-fiction américaine. Alors, en abordant d'une part, j'avais prévu si ça vous intéresse, d'une part, on revient un peu en arrière sur un certain nombre de cycles qui, comme je vous le disais, ont pour moi marqué la science-fiction et là, par contre, la littérature générale et le public en général, et puis peut-être quelques-unes des tendances plus récentes. Ça vous va? On continue? Alors, donc, si on revient en arrière, hein, et on parle un petit peu des cycles, je dirais d'abord à tout seigneur, honneur, le coup de tonnerre dans le paysage de la littérature mondiale et cinématographique, c'est la sortie de 2001 de Kubrick. Ça, c'est là où tout le monde découvre que la science-fiction, ça existe. Même ceux qui avaient échappé à Buck Rogers en BD, etc., qui n'avaient jamais été piloter leurs copines dans les drive-in américains. Pendant que passaient des films de série Z, de SF. Bon, personne n'échappe à 2001, hein, l'un des plus beaux films qui soit. Tout le monde connaît l'ouverture du film, tout le monde a fait la connaissance de HAL, l'ordinateur. C'est la première fois, là aussi, je dirais, que le grand public est exposé au concept d'intelligence artificielle. Bon, et le roman de Clark, naturellement, 2001, l'Odyssée de l'espace a connu un grand succès. Et puis, ben, c'est un succès qui a continué puisque ça a été décliné. Il y a plusieurs suites. Hein. Donc ça, pour moi, c'est ce qui marque quelque part la sortie de la science-fiction du ghetto, de son ghetto. Ensuite. L'autre cycle qui, pour moi, a marqué le public en général et a fait sortir la SF du ghetto et de son lectorat habituel, bon, naturellement, j'aurais dû quand même citer aussi le roman de Heinlein, En terre étrangère, auteur qualifié de réactionnaire, de militariste, etc., qui écrit la Bible des hippies à San Francisco, en terre étrangère, roman qui là aussi est complètement sorti, a eu une influence colossale. Ça donnera lieu d'ailleurs aussi, là aussi un très beau film avec David Bowie, si je me souviens bien. Mais il y a un cycle qui, lui, va faire sortir la SF du ghetto, c'est bien entendu Dune de Frank Herbert. Alors, Dune, bah, ça a commencé à paraître, vous voyez, dans Analogue, hein, en décembre 63, donc c'est pas jeune. Et Dune, bah, ça sera décliné sur toutes les formes possibles. Alors, d'abord, il y aura quelques suites écrites par Frank Herbert lui-même, hein, Messie Dune, La Maison des Mers, etc. Bon, ça reste encore très bien. Et puis, Frank Herbert disparaîtra, mais pas le filon. Et donc, il continue à y avoir des tas de suites, des préquelles, des séquelles, etc., etc. J'ai tendance à penser qu'aujourd'hui encore, dès qu'on retrouve un bout d'enveloppe sur lequel il avait griffonné deux mots, ça permet à Kevin J. Anderson et au fils de Frank Herbert d'écrire un bouquin entier de Dune. Bon, mais là, c'est une opinion qui n'engage que moi. Pour ceux par hasard qui n'auraient pas lu, j'engage quand même à lire quand même les trois premiers. Là, ça reste magnifique. Ça a donné lieu à des films, bon, plus ou moins décriés, mais ça dépend des goûts de chacun. J'avoue que personnellement, j'ai quand même une faiblesse pour le premier. Je le trouve pas mal. Alors, autre cycle qui va quand même beaucoup marquer les esprits. Ce sera le cycle du World of Fear, hein, le cycle des faiseurs d'univers de Philip Joseph Farmer. Ça va débuter en 65 et traduit en français, là vous voyez la traduction française dans Galaxy Bis, c'est un cycle qui va durer quand même pardon, 7 volumes, hein, ça va durer jusqu'en 93. Ça sera l'un des deux grands cycles, l'autre étant évidemment en 65, année faste. Ça va être le début du cycle du monde du fleuve, The Day of the Great Shot, dans. Ça, c'est le Galaxy français que vous voyez là, donc traduit 3 ans après. Bon, donc une série en 5 volumes, avec un volume, To Your Scattered Bodies Go, aura le Hugo en 71. Donc, ça, ce sont 4 cycles qui vont se poursuivre en fait. Pour certains sur près de 40 ans. Et vous voyez, je suis désolé, je m'en étrangle d'avoir crié au bord du fleuve, m'a donné un chat dans la gorge. Bon. Donc il me semble que ça, ce sont 4 cycles qui ont eu un impact considérable, non seulement sur les lecteurs, mais aussi sur les lecteurs de science-fiction plus jeunes, qui ensuite sont devenus des auteurs reconnus. Hein, il me semble que ça, c'est très important. Ce sont des influences majeures sur l'évolution de la science-fiction. Merci, excusez-moi. Donc, si on examine maintenant ce qui semble pour moi certains courants, hein, qui sont apparus donc depuis les années 80 où je m'étais arrêté tout à l'heure. Hein. Alors, au niveau des magazines, on constate qu'il y a quand même un épuisement des magazines, mais et qu'il y a plus de lectorat maintenant quelque part au niveau des publications directement en livre. Et en particulier même en livre de poche aux États-Unis. Il y a quand même eu quelques courants qui ont permis à la science-fiction de prendre des nouvelles directions. Donc le space opéra, les histoires de mutants, les guerres atomiques, les pouvoirs parapsychologiques, tout ce qui avait fait, je dirais, la force de la science-fiction. Entre des années 50 aux années 70, ça tend à décliner un petit peu et il y a des nouvelles thématiques qui apparaissent. Alors, le premier courant, bien entendu, vous le connaissez tous, c'est ce qu'on a appelé le cyberpunk. de cybernétique et de punk. Et c'est là où on trouve donc des hackers ou des génies informatiques, des intelligences artificielles, et tout ça dans un futur qui est toujours assez proche du nôtre, et sur une terre qui en général est plutôt mal en point, hein, criminalité, surpopulation, pollution, etc. Donc beaucoup des problèmes qui sont actuels sont traités là-dedans. Et le précurseur, véritablement, c'est William Gibson, hein, avec Neuromancien, hein, qui est sorti en 84. Donc là, ce sont toutes les technologies relatives à l'informatique, principalement, qui sont mises en avant. Les personnages sont parfois... ont souvent des corps dont les facultés sont augmentées artificiellement, hein, contrairement aux mutants auparavant, qui étaient une simple évolution. Là, souvent, c'est soit des prothèses, soit les nanotechnologies qui permettent de les faire muter, soit des modifications génétiques. Parfois même, ils se font greffer des intelligences artificielles qui viennent les aider, etc. Alors, le mouvement durera une douzaine d'années, et ce sera donc ici Neil Stephenson avec le samouraï virtuel, hein, Snow Crash, qui quelque part on considérera qu'il enterrera le mouvement. Mais parmi les auteurs représentatifs, il y a eu certains romans qui ont eu un écho formidable, comme par exemple Greg Egan avec La Cité des Pères Mutants, remarquable, où là, il pousse assez à leur limite les nouvelles technologies des univers virtuels, puisque on vit dedans, hein, etc. Et donc, on peut se télécharger dans un univers virtuel, et à partir de là, quelque part, on devient immortel. Frédéric Pohl avait aussi utilisé ça dans la saga des Itchy. Une autre série remarquable, c'est Câble et Plus de Walter John Williams. Quatre romans au total entre 86 et 91. Alors, il y a aussi ce qu'on a appelé le post-cyberpunk, où là aussi on est dans une société future où on étudie l'impact des télécommunications et des nouvelles technologies, etc. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir des héros qui sont plutôt dépaumés, là, on aurait plutôt des personnages qui essayent soit d'améliorer les choses, soit au moins de les empêcher d'empirer. Alors là, on peut citer, par exemple, Les Diables Blancs de Paul Macaulay, qui se passe dans une Afrique des années 2030, si mes souvenirs sont bons, hein, avec des ravagés par la pollution et où il y a des mutations génétiques, c'est absolument remarquable. Il y a aussi, bien entendu, du même Neil Stephenson, il y a Cryptonomicon, c'est absolument remarquable. Autre courant qui a eu beaucoup de succès en étant parti d'une blague, c'est le steampunk, hein, qui continue d'avoir beaucoup de succès en France. Alors, à l'origine, le steampunk, si, ça désignait des œuvres qui se déroulaient dans le cadre du 19e siècle victorien, hein, par exemple William Gibson, Bruce Sterling, la machine à la différence. Donc, c'est-à-dire, que se serait-il passé si, en utilisant la vapeur, on avait développé des technologies comme les nôtres? Alors, bon, il n'y a pas beaucoup de possibilités scientifiques, parce que la machine de Babbage en tant qu'ordinateur à vapeur, c'est pas terrible, mais c'est pas grave, parce qu'il y a quand même, quand c'est bien écrit, tout le plaisir du lectorat, hein, les dirigeables à vapeur, etc. Donc, le terme, d'ailleurs, de steampunk, s'applique même de façon un peu plus large, en fait, à des œuvres qui se déroulent dans d'autres temps et dans d'autres lieux, hein, comme là, par exemple, de Paul Macaulay, Les Conjurés de Florence. Qu'est-ce qui se serait passé si Léonard de Vinci avait réussi à réaliser toutes ces machines et que donc la révolution industrielle avait eu lieu dans l'Italie de la Renaissance? Bon, c'est magnifique. En fait, dans le steampunk, ce qu'il faut, c'est que ce soit une ambiance proche du 19e siècle, plutôt fantaisiste. Hein. Et puis, alors, surtout, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des grosses machines, plein de tuyaux en cuivre, bien astiqués, plein de vapeur qui en jaillit, que ça grince bien, que ça cliquette bien, etc., que ça crachote bien. Ça, c'est magnifique. Alors, l'un des précurseurs hein, en la matière du steampunk, c'est quand même Michael Moorcock, avec ses aventures, sa trilogie des aventures de Oswald Bastaple hein, dans les années 70 à 80, Nomad of Time. Voilà, on a les dirigeables, les tanks géants, etc. Tout ça à vapeur, c'est absolument magnifique. L'une des autres caractéristiques de la littérature steampunk, c'est que dedans interviennent souvent des personnalités célèbres, alors qui peuvent être soit des personnalités du monde réel, des poètes, des écrivains, mais aussi des personnages fictifs, les plus populaires étant Sherlock Holmes, Frankenstein, Dracula. Alors, c'est Kim Newman qui a très bien réussi tout ça dans sa trilogie de Anneau Dracula, hein, où au début on est à la fin de l'ère victorienne, mais une ère victorienne un petit peu différente, puisque le comte Dracula a réussi à épouser la reine Victoria quand elle est devenue veuve. Donc évidemment, ça modifie un petit peu le paysage, et à partir de là, ça reste très bien. Le deuxième volume se passe pendant la Première Guerre mondiale, et Kim Newman termine dans la Rome de 1957. C'est absolument magnifique. Si certains d'entre vous ne l'ont jamais lu, je vous y invite. En plus, c'est très drôle et c'est bourré de clin d'œil. Et donc, Anneau Dracula, donc cette série de Kim Newman, c'est l'un des. Kim Newman a été l'un des précurseurs en même temps de ce qu'on appelle les crossovers, c'est-à-dire les romans dans lesquels on mélange des personnages de séries différentes. Hein. Alors, comme je vous le disais, c'est souvent Sherlock Holmes. Qui rencontre Frankenstein, etc. Mais ça peut être les habits noirs de Paul Féval qui rencontre des gens de même époque. Donc c'est toujours des mélanges comme ça absolument. Et ça peut donner des fois des résultats très plus. Il y aura Roland Wagner, Laurent Bouffoy, et j'en oublie. Donc je vous incite à y aller. Et alors, pour en terminer là sur vraiment ce qui est le plus contemporain, comme je vous le disais tout à l'heure, il me semble que le Space Opera avait connu un déclin dans les années 80-90. Il me semble que, à nouveau, le Space Opera et l'Art Science ont repris du poil de la bête, hein, et aujourd'hui, et là aussi, certains cycles. Alors, il y a par exemple le magnifique cycle de Ian Banks, hein, le cycle de la culture qui commence avec une forme de guerre en 87 et donc qui continue aujourd'hui. C'est absolument magnifique. On est dans un univers où l'humanité est essaimée partout et où en fait ce sont des super intelligences artificielles qui dirigent tout le monde et qui permettent à la culture de vivre en faisant aux humains de faire absolument ce qu'ils veulent, etc. Mais Ian Banks a en même temps toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'impérialisme culturel, etc. Et est-ce que une humanité qui a tout ce qu'elle veut est-elle parfaitement heureuse? Est-ce le but ultime de l'humanité? C'est très fin, c'est très profond et en même temps, c'est de la magnifique science-fiction. Il y a aussi donc le cycle la série du Centre Galactique de Gregory Benford hein, qui a commencé avec Dans l'océan de la nuit en 78. Là aussi, il doit y avoir 5 volumes de sortie à l'heure actuelle, 5 ou 6 volumes. Là aussi, on est dans une humanité qui a essaimé partout et on se pose plein de questions. C'est superbe. Il y a naturellement le cycle de l'Hexamone de Greg Bear, L'examen, c'est un gigantesque vaisseau spatial vide qui est rempli de chambres. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on découvre en rentrant dans ce vaisseau spatial et en explorant ces chambres? Il y a la série de Jack McDivitt, Les machines de Dieu, les volumes suivants. Là aussi, c'est du grand space opéra. Quels sont ces artefacts extraterrestres qu'on découvre? Qu'est-ce qui est dans le système solaire d'abord et puis ensuite ailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était cette civilisation qui a disparu? Magnifique. Naturellement, il y a aussi Peter F. Hamilton avec toute la série de Dragons déchus. En Hard Science, on a la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson sur la terraformation de Mars. Et puis, on a aussi, alors là, de lecture un peu difficile, mais absolument magnifique, par exemple, Vision aveugle de Peter Watts, qui est vraiment à la fois de la Hard Science et du Space Opera. Il y a une tendance que personnellement j'aime beaucoup, sans doute parce qu'elle avait été très décriée et que, à mon avis, en tort et en partie à raison, mais qui aujourd'hui revient en force, c'est ce que j'appelle la tendance, la SF militariste intelligente. Et non, ça n'est pas un oxymore. Donc, par exemple, avec les 6 volumes de La Flotte perdue de Jack Campbell, c'est là où c'est toute une réflexion sur qu'est-ce que la guerre, à quoi sert la guerre, pourquoi fait-on la guerre, avec en plus des notions qui avaient un peu disparu, qui sont remises en valeur, comme la notion de devoir, la notion d'honneur, etc. Il y a aussi John Scalzi, la trilogie du vieil homme et la guerre, et là aussi c'est une réflexion sur pourquoi fait-on la guerre? La guerre est-elle justifiée dans certains cas, par exemple quand des colonies veulent devenir indépendantes, s'émanciper? Donc c'est toute une réflexion sur la colonisation et aussi sur la relation avec l'autre, puisque les coloniaux sombrent-ils dans les mêmes travers que la terre-mère, mais eux vis-à-vis des extraterrestres qui les entourent? Et comment établir la relation avec l'autre, etc. C'est très intelligent, personnellement j'ai trouvé ça remarquable et très fin. Ou encore plus récemment, de Paul Macaulay, La guerre tranquille. Là aussi, qui est quelque chose de très actuel, c'est les colonies peuvent-elles et doivent-elles s'émanciper? Comment doivent-elles le faire? Par la non-violence ou par la lutte armée? Et en même temps, y a toute une réflexion sur est-ce que l'écologie justifie tous les moyens pour sauver la Terre? Là aussi, c'est quelque chose de très fin. Donc ça, c'est de la science-fiction qui est tout à fait en prise avec tous les questionnements actuels. Je passe aussi naturellement sur les modifications corporelles, etc. Et les avancées de la génétique et de la bio-ingénierie qui inquiètent tant de monde. Donc, vous voyez, là, il y a encore beaucoup de talents nouveaux, beaucoup de livres remarquables qui se publient. Et donc, la science-fiction anglo-saxonne, elle a encore beaucoup de beaux jours devant elle. Et ça, pour notre plus grand plaisir à nous en tant que lecteurs. Merci. Donc, désolé, une demi-heure de plus. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que naturellement, j'ai été obligé d'aller malgré tout très vite, et c'est très incomplet. Je n'ai pas parlé de Péry Rodin, dont je n'ai pas honte de l'avouer, je suis un grand fan, et dès la première heure, je fais partie des gens qui ont acheté le premier volume au Fleuve Noir dans les années 60, quand c'est sorti en librairie. Donc ça remonte à très loin. Je n'ai pas parlé de Péry Rodin parce que c'est une série allemande. C'est la série de science-fiction la plus vieille au monde, 2300 ou 2400 fascicules, parce qu'en Allemagne, ils continuent à sortir ça par fascicule tous les 15 jours. Ça commençait à sortir en Allemagne en 62 ou 63. C'est de la science-fiction populaire dans ce qui pour moi est la meilleure, c'est-à-dire que c'est complètement débridé, etc. C'est magnifique. C'est la science-fiction que vomissent certains intellectuels de la science-fiction. Moi, je trouve ça remarquable. Et ça dure encore aujourd'hui. Alors en France, on a un retard épouvantable. Donc ceux qui ne connaissent pas la langue ne pourront jamais lire tout Péri-Rodan. Mais moi, je trouve ça très bien. C'est toute une écurie de gens qui continuent, d'auteurs qui continuent à faire ça. Et je vous signale que dans la salle, il y a des gens du club Péri-Rodan. Hein, le club Péri-Rodan qui s'appelle Basis. Il y a Antoine Susini qui est là, qui est le patron du club. Donc il pourra vous donner plein de détails sur Péri-Rodan. J'ai pas parlé de Dan Simon. J'ai fait plein d'oublis, c'est très injuste. Absolument, mais y en a. On peut pas être exhaustif, mais vous avez tout à fait raison. C'est là des très grands auteurs. Mais vous voyez, quand je suis obligé de citer un titre de Poul Anderson, que j'ai cité un titre de Leigh Brackett, c'est très difficile. Mais vous avez raison, Dan Simon, c'est un des grands auteurs. Oui, à dessein, parce que le quatrième volume, qui est c'est la même histoire vue par la fille, et on sent que là, c'est la capitalisation sur le succès de la trilogie initiale. Je l'ai lu aussi. Alors, lisez les deux autres, les Brigades Fantômes. S'appelle le troisième, ça c'est remarquable. Vous pouvez vous passer du quatrième. Oui, monsieur. C'est une question très difficile parce que, évidemment, d'abord, le propre de la science-fiction. C'est sa richesse. C'est vraiment que la science-fiction peut aborder tous les thèmes possibles et imaginables. C'est le but. Là, j'ai essayé de dégager quelques thèmes. Sur la science-fiction contemporaine, évidemment, on manque de recul puisqu'on est dedans. Mais on sent quand même que parmi les problématiques qui intéressent beaucoup les auteurs et qui sont celles qui agitent aussi les gens en général, comme je l'ai dit, c'est la bio-ingénierie. Hein. Tout ce qui est modification corporelle par des modifications génétiques, par des implants, etc. Tout ce qui est nanotechnologie inspire énormément les auteurs. Hein. Vite, on avale une capsule ou on se fait une piqûre, et on a les nanorobots qui sont là à nous gratter le cholestérol ou à nous donner une super force qu'on en a besoin, etc. Ça, on sent que ça fait vraiment partie des choses. Et l'adaptation donc de l'homme à son environnement, contrairement à l'autre part de l'alternative, mais qui agite aussi beaucoup de monde, qui est l'adaptation de l'environnement à l'homme. Hein. J'ai parlé de la terraformation de Mars tout à l'heure avec Kim Stanley Robinson, mais c'est par exemple maintenant dans la guerre tranquille, c'est l'adaptation, on trouve les deux justement, c'est un très bel exemple, là, il y a les humains sur la Terre qui disent d'un côté, nous devons rétablir notre environnement et l'homme doit vivre dans l'environnement pour lequel il a été conçu, et vous avez les coloniaux donc sur Mars et sur les satellites extérieurs qui disent Bon, c'est l'homme qui en fait doit s'adapter aux différents environnements, vivre la modification génétique, etc. Donc ça, il me semble que c'est l'une des choses. Bon, les intelligences artificielles, tous les problèmes de tout le questionnement sur qu'est-ce que les ordinateurs vont devenir. J'aurais pu citer par exemple un autre grand auteur de science-fiction, c'était très injuste, alors j'en profite maintenant, c'est Ian MacDonald. Ian MacDonald, qui étudie beaucoup le futur à court terme, on est toujours avec ses romans dans Brésil, on est dans un Brésil des années 2040 ou 2050, je ne me souviens plus exactement. Dans Le Fleuve des Dieux, là, qui est sorti récemment, on est dans l'Inde des années 2040. C'est qu'est-ce que le devenir de l'homme? Que vont devenir ces gigantesques mégalopoles? Et surtout, qu'est-ce que. À partir de quel seuil un ordinateur devient-il intelligent? Ça, c'est quelque chose qui agite beaucoup. Le problème de l'intelligence artificielle et du devenir des intelligences artificielles, est-ce que ce seront des citoyens comme les nôtres, comme nous? Est-ce que par contre, elles auront un statut inférieur? Là, ça se décline beaucoup. Oui, c'est ça. Écologie, intelligence artificielle, biogénie. C'est les trois thèmes qui me viennent spontanément à l'esprit. J'en oublie certainement. Je ne sais pas, vous avez peut-être des idées, non? Mais ça, ce sont vraiment les trois grandes thématiques qui me viennent spontanément à l'esprit en ce moment. Plus rien. Alors, allons manger et merci encore de votre attention.